Je vous prie de vous rasseoir, tout en demeurant dans cette attitude de recueillement, puisque nous voulons nous préparer à recevoir sa parole dans nos cœurs, et nous voulons que cette parole puisse trouver des cœurs bien disposés à l'accueillir. Oh, alléluia. Comme nous venons, Seigneur, de le chanter, sans toi, non seulement nous ne pouvons rien, mais sans toi, nous sommes rien. Tout ce que nous sommes, Seigneur, et tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, si tant est que nous possédions quelque chose, tout cela est le produit de ta grâce envers nous. Nous sommes là ce matin, Seigneur, avec des cœurs remplis de reconnaissance et de gratitude pour ce que tu es, pour ce que tu représentes, Seigneur, pour chacun de nous. Encore une fois, nous voulons te dire merci pour ta victoire et ton triomphe, Seigneur, à Golgotha et ta résurrection d'entre les morts. En ce dimanche, Pascal, nous voulons nous réjouir, Seigneur, ô Dieu, en ta présence. Nous voulons laisser nos cœurs exploser de joie, de reconnaissance, car ta victoire est notre victoire. Par ta mort, tu nous as acquis, ta mort et ta résurrection, tu nous as acquis, Seigneur, le salut. Mais alors un salut total, parfait, entier. Comme nous l'avons vu le dimanche dernier, là, sur le bois infâme de la croix, tu as poussé ce cri qui a marqué à jamais non seulement les annales de l'histoire humaine, de l'histoire de l'humanité, mais ce cri également, Seigneur, s'est fait entendre jusqu'au-delà de l'espace et du temps. Tout est accompli. Tu as rendu ton esprit au Père, mais au troisième jour, tu es ressuscité d'entre les morts. Le troisième jour, Seigneur, tu es sorti vainqueur de la mort, vainqueur de celui qui détenait le pouvoir de la mort, vainqueur des puissances des ténèbres, des puissances de sorcellerie et d'occultisme, vainqueur du satanisme, vainqueur de la magie, vainqueur du péché quel qu'il soit. Tu es vainqueur pour les siècles des siècles. Et ce matin, c'est devant le ressuscité du troisième jour. Ce matin, c'est autour de celui qui a vaincu à la croix. Celui qui est mort, certes, mais celui qui est ressuscité. Oui, c'est autour de toi que nous sommes rassemblés. C'est vers toi que nous poussons des cris de joie, que nous t'exprimons nos sentiments. Sois loué, Jésus de Nazareth. Sois élevé, toi le Fils du Dieu vivant. Le même hier, aujourd'hui, éternellement, la lumière du monde, le soleil levant, le prince de paix, le Dieu tout-puissant. Oh, alléluia! Merci. Merci pour tout. Nous voulons, Seigneur, te demander de nous parler maintenant, de déposer dans nos cœurs, Seigneur, ta pensée. Nous avons besoin de grandir en nous. Nous avons besoin, Seigneur, de croître à tous égards. Nous avons besoin, Seigneur, ô Dieu, de porter du fruit pour ta gloire. Mais cela n'est possible que dans la mesure où nous recevons régulièrement ta parole. Dans la mesure où ta pensée, Seigneur, est de plus en plus semée dans nos cœurs. Ô, aide-nous. Débarrasse nos cœurs de toute racine d'amertume. Seigneur, débarrasse nos cœurs, ô Dieu, de tout ce qui n'est pas à ta gloire. Nous voulons que ta parole trouve des cœurs purifiés, sanctifiés. Seigneur, par le sang et dans le sang que tu as versé à Golgotha. Seigneur, merci. Parle-nous. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Vous êtes avec moi. Une chose est sûre, Le Seigneur est avec nous, mais aussi, une chose est sûre, je suis avec vous. Alléluia. Et dans cette communion fraternelle, nous pouvons alors nous asseoir au pied du Seigneur et recevoir sa parole. En ces dimanches de Pâques, en ces dimanches pascals, j'aimerais parler du fait que Jésus est vraiment et réellement ressuscité et d'entre les morts. Alléluia. La résurrection est une doctrine fondamentale de la parole de Dieu. Ce n'est pas une imposture, voyez-vous, pas du tout. C'est un fait réel qui est d'ailleurs à la base de toutes les bénédictions qui sont les nôtres. Et gloire à Dieu. Jésus est réellement ressuscité d'entre les morts. Nous allons lire très rapidement dans l'évangile de Jean, comme la fois dernière, évangile de Jean, nous allons lire au chapitre 19, très rapidement, puisqu'après nous aurons la Sainte Cène. Chapitre 19 de Jean, l'évangile, à partir du verset 28 jusqu'au verset 37. Nous lisons. Après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé, dit, afin que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa une tige d'hysope, une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était le jour de la préparation, donc de la préparation de Pâques, et pour ne pas laisser les corps en croix pendant le sabbat, or ce sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate de le faire enlever après leur avoir brisé les jambes. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Arrivé à Jésus, le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez vous aussi. Cela est arrivé pour que l'Écriture soit accomplie, aucun de ses os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils regarderont à celui qu'ils ont percé. Nous allons au verset 41 à 42. Or, il y avait un jardin à l'endroit où il avait été crucifié, et dans le jardin, un tombeau neuf où personne encore n'avait été déposé. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le tombeau était proche. Chapitre 20, très rapidement, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là, pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau et aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi, il vit et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'Écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Alléluia. Le tombeau vide. Un fait de plus qui atteste que Christ est réellement ressuscité. Nous sommes donc, frères et sœurs, je me permets de vous le rappeler, le dimanche 17 avril, dimanche de Pâques, et un peu partout à travers le monde, des chrétiens de tous bords, eh bien, célèbrent en ce jour la résurrection du Seigneur, sa victoire sur la mort, sa victoire sur l'enfer, sa victoire sur les puissances des ténèbres. Un peu partout à travers le monde, les gens louent, les gens adorent, les gens proclament que Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, est vraiment ressuscité, est réellement ressuscité, qu'il est véritablement ressuscité, et gloire au Seigneur. Nous l'avons vu le vendredi dernier, l'ange s'est adressé à ces femmes qui étaient parties tôt le matin, avant le lever du jour, pour embaumer le corps du Christ. L'ange s'est révélé à eux, à elles, et leur a dit, « Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié, mais il n'est pas ici, il n'est pas au tombeau ou dans la tombe. En effet, il est ressuscité comme il vous l'avait dit, alléluia. Il est la vérité. Il avait dit qu'il allait mourir, non pas par accident, non pas parce que ses ennemis, ses adversaires auraient été plus forts que lui, pas du tout. Il est venu sur cette terre pour mourir, car il n'y avait pas d'autre moyen de sauver l'homme que le Seigneur lui-même vienne ici-bas, qu'il prenne un corps semblable au nôtre et qu'il donne sa propre vie, qu'il la pose sur l'autel du Père. Mes amis, Jésus est mort sur la croix pour nous et à cause de nous. Mort crucifié, mais ressuscité pour les siècles des siècles, alléluia. C'est donc le Dieu vivant que nous sommes venus rencontrer ce matin. C'est donc le ressuscité qui règne au siècle des siècles que nous sommes venus rencontrer en ces dimanches de Pâques. La résurrection du Seigneur, la résurrection de Jésus, frères et sœurs, n'est pas une histoire inventée, une histoire créée de toutes pièces par quelques femmes hallucinées, quelques femmes en proie à des hallucinations. La résurrection de Jésus n'est pas non plus une histoire imaginée par quelques disciples en proie à des hallucinations paranoïaques. Pas du tout. La résurrection de Jésus est un fait. Vous et moi, si nous sommes là, c'est parce qu'un jour nous l'avons rencontré, alléluia. 2000 ans plus tard, il agit encore. Preuve de plus que Jésus est vraiment ressuscité. Car il est impossible que les liens de la mort puissent le retenir. C'est un fait authentique, c'est un fait réel, visible, concret, et contrôlé, mes amis, par plusieurs centaines de témoins oculaires, comme nous le verrons très rapidement. De gens qui ont vu le Seigneur, et des gens sérieux, qui étaient saints d'esprit, qui tous ont affirmé qu'il s'était révélé à eux, qu'ils l'avaient vu. Oh, alléluia. Ce n'était donc pas une sorte d'arnaque imposée, pas du tout. C'était la réalité. D'ailleurs, Luc, l'auteur du livre des Actes, chapitre 1, verset 3, il nous le dit, c'est à eux, c'est-à-dire aux apôtres aussi, qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le règne ou le royaume de Dieu. Et plus tard, un des champions de la foi chrétienne, l'apôtre Paul, qui lui aussi avait vu le Sauveur ressuscité là sur le chemin de Damas, écrira aux Corinthiens, et je reviendrai sur ce passage et dans la suite du message, 1 Corinthiens 15, 3 à 6, j'aime beaucoup ce passage. Qu'est-ce que dit-il? Je vous ai transmis avant toute chose ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et maintenant, écoutez la suite. Il a été vu par Képhas ou Cephas, c'est-à-dire Pierre, puis par les 12. Ensuite, Il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Pour Paul, il ne fait ombre d'aucun doute que le Messie était véritablement ressuscité. Et là, il nous parle de plusieurs frères qui étaient encore vivants et qui avaient vu le Seigneur. Mes amis, nous voyons que Jésus est vraiment ressuscité. Et cette doctrine, car c'est une doctrine de la résurrection, est tout aussi importante que sa mort. Car imaginez-vous un peu, s'il était mort en prenant le péché et qu'il ne serait jamais revenu à la vie, nous serions encore dans notre perdition. Mais avec la résurrection, eh bien sa mort devient aussi victoire. Et gloire à Dieu. J'ai souligné que la mort ou la résurrection de Jésus est un fait. Eh bien, nous allons examiner quels sont les éléments à partir desquels nous pouvons affirmer qu'en effet, c'est un fait. Quels sont ces éléments qui confirment qu'effectivement, en dehors évidemment de la foi, que Jésus était vraiment ressuscité? Très rapidement, quatre faits qui vont nous aider à comprendre et aider certains qui se posent encore des questions, qui se disent, bon, est-ce qu'en dehors de la croyance qu'il est ressuscité, de la foi, y a-t-il de faits qui puissent attester qu'effectivement Jésus est sorti du tombeau vainqueur de la mort? Oui. Le premier fait, c'est le tombeau vide. Alléluia. Le tombeau vide. Tôt le matin, nous l'avons lu, les femmes sont parties au tombeau pour embaumer le corps du Christ. Elles avaient cru en lui, elles s'étaient données corps, âme et esprit pour le suivre. Elles faisaient partie de ses disciples. Elles sont parties ce matin-là, non seulement elles, mais plus tard, nous voyons que Pierre et Jean vont tous être surpris et même perplexes de trouver le tombeau vide. C'est un élément important, vous voyez? C'est un indice important. Ils sont partis, d'abord les femmes, ensuite Pierre et Jean, et ils ont trouvé le tombeau vide. Ensuite, Simon-Pierre et Jean vont être intrigués parce qu'ils vont voir à l'intérieur du tombeau. En effet, qu'ont-ils vu? Qu'ont-ils aperçu? Eh bien, ils ont aperçu les bandelettes, c'est-à-dire les linceuls dans lesquels le corps du Seigneur était enveloppé, donc les bandelettes. Ils ont vu les bandelettes bien posées. Et le linge qu'on avait mis sur la tête, c'est-à-dire le suaire, n'ont pas posé avec les bandelettes, pas du tout, mais plutôt roulé et déposé dans un autre endroit. Donc tout est bien en ordre. Il n'y a pas eu agitation, pas du tout. Ça veut dire qu'il est resté maître même à ce moment-là. Oh, alléluia. Les bandelettes dont le corps avait été enveloppé sont posées quelque part. Et puis ensuite, le linge qu'on avait placé sur sa tête, bien roulé, posé à un autre endroit. Ils sont intrigués. Voyez-vous, c'est le verset 4 à 7, hein, on n'a pas le temps de le lire dans Jean 20. Quelles leçons en tirer par rapport à la résurrection? Eh bien, l'absence du corps du Seigneur, la disposition des bandelettes et les suaires, c'est-à-dire le linge qu'on avait posé sur sa tête, ne pouvait pas être le résultat d'un cambriolage. Vous voyez? Ne pouvait pas être le résultat d'un vol. Il s'est passé quelque chose. Supposons qu'il y ait eu vol. Car les Juifs, d'ailleurs, vont répandre cette fausse nouvelle après avoir soudoyé les gardes qui étaient à la tombe en disant, écoutez, allez dire que ses disciples sont venus chercher le corps pour le faire disparaître. Alors, envisageons deux hypothèses. La première, supposons que les ennemis du Seigneur, ses détracteurs, soient venus enlever son corps. D'après vous, qu'est-ce qu'ils auraient fait de ce corps? Eux qui avaient entendu le Seigneur dire à plus d'une fois qu'il allait mourir et ressusciter au troisième jour. Eux qui avaient entendu à plus d'une fois le Seigneur dire qu'il était le Fils de Dieu, détruisaient ce corps, ce temple, et je le rebâtirai en trois jours. Qu'est-ce qu'ils auraient fait si ces gens-là avaient déplacé le corps du Seigneur? Eh bien, c'est facile. Ils auraient certainement exhibé ce corps un peu partout dans Jérusalem pour prouver qu'il n'était jamais ressuscité, oui ou non? Alléluia. Voilà. Ils auraient trouvé un malin plaisir. Ils auraient été tous dans la liesse en exhibant ce corps en disant, vous voyez ce Nazaréen, vous voyez cet homme qui disait un peu partout qu'il allait mourir et ressuscité, lui qui nous a dit qu'avant qu'Abraham soit, lui, eh ben, voilà maintenant, son corps est là. Vous pouvez venir voir et vous rendre compte que ce n'était qu'un imposteur. Mais cela ne s'est pas passé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette hypothèse n'est pas plausible. On ne peut pas dire qu'on est venu voler le corps du Seigneur, pas du tout, encore moins par ses détracteurs. Donc effectivement, le tombeau était vide. S'il était vide et que les détracteurs du Seigneur ne l'avaient pas volé, alors ce corps est Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, il est ressuscité. Première hypothèse. Donc, ces détracteurs ne pouvaient pas voler le corps. Autrement, ils l'auraient exhibé partout pour montrer que ce n'était qu'un imposteur, ce n'était qu'un aventurier, ce n'était que quelqu'un en plein délire, sans plus. Deuxième hypothèse. Supposons que ses disciples seraient venus enlever le corps du Seigneur, aller le cacher quelque part, et puis le premier jour, dire, vous voyez, le tombeau est vide. Jésus est vraiment ressuscité. Essayons de réfléchir aussi sur cette hypothèse. D'abord, elle est invraisemblable, car nous avons vu que les femmes elles-mêmes, et puis ensuite Pierre et Jean, ont été surpris, perplexes de trouver le corps. Mais si c'est eux qui l'avaient pris, pourquoi être surpris? Voyez, pourquoi être surpris? Mes amis, si c'était ses disciples, eh bien, qui auraient pris ça, si c'était ses disciples, ils n'auraient certainement jamais sacrifié leur vie et leur bien pour défendre ce qu'ils savaient être un mensonge. Regardez comment eux tous ont terminé leur vie. Qui aurait accepté de mourir pour un mensonge? Qui aurait accepté ça? Ils ont perdu leur bien. Certains ont été exilés. Certains ont été lapidés. Certains ont connu le martyre. Vous pensez qu'ils auraient accepté tout ça tout en sachant qu'il s'était organisé pour mentir aux gens? C'est invraisemblable, n'est-ce pas? Eh bien, cela nous montre, une fois de plus, que le corps n'aurait pas pu être enlevé par ses disciples. Autrement, ça aurait été de vrais, vrais acteurs, des menteurs. Ils n'auraient pas accepté de mourir pour un mensonge. Tôt ou tard, un d'entre eux aurait vendu la mèche, oui ou non? Il dit, non, entre nous, moi j'étais là. Laissez-moi dire la vérité. Et puis en plus, c'était des gens avec une certaine moralité. Ils ont prêché la vérité. Ils ont condamné le mensonge, oui ou non? Donc vous voyez, mes amis, que ces deux hypothèses ne sont pas plausibles. Et dans ces cas, le tombeau vide est un fait qui atteste que Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxièmement, très rapidement, deuxième fait. J'ai déjà eu à en parler, j'aime beaucoup aussi ce fait. Le déplacement du centre de gravité religieux en Israël par les premiers disciples. Vous savez tous que tout l'Ancien Testament est clair sur le respect du Shabbat, le respect du dernier jour, c'est-à-dire le sabbat, c'est-à-dire le samedi. Et encore aujourd'hui, en Israël, le samedi est un jour férié, c'est comme pour nous le dimanche. Encore aujourd'hui, vous trouvez des juifs ultra-orthodoxes qui ne font rien le jour de sabbat, du sabbat. Rien. C'est le jour du Seigneur. Voyez. Les premiers disciples étaient tous des juifs. Ils sont nés dans le judaïsme. Ils ont vécu dans le judaïsme. Eux tous connaissaient l'importance du sabbat, c'est-à-dire le samedi. Voyez. Mais alors, comment expliquer que de samedi, ils choisissent le premier jour comme jour du Seigneur? C'est qu'il s'est passé quelque chose. Oui ou non? Oui ou non? Vous êtes avec moi? Oui, il s'est passé quelque chose. Comment est-ce possible? Comment l'expliquer? Comme je viens de le dire, c'était des gens qui respectaient et qui observaient les traditions des anciens, notamment le strict respect du jour du Shabbat. En ce jour-là, il ne fallait rien faire. D'ailleurs, si vous lisez les évangiles, vous verrez que le Seigneur a eu maille à partir avec les pharisiens, avec les juifs, quant au respect de ce jour-là. Rappelez-vous de la guérison de l'infirme de Bethesda. Nous sommes dans Jean 5, 8 à 11. Au verset 8, le Seigneur dit à cet homme-là, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme retrouva la santé, alléluia, et il prit son lit et se mit à marcher. Et Jean précise, regardez, c'était le sabbat ce jour-là. Ah, c'était le samedi. Alors regardez la réaction de Juifs. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, j'ai toujours essayé de m'imaginer un peu la scène, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton lit. Vous vous rendez compte? Quelqu'un est guéri. Pendant de nombreuses années, il était là sur son grabat. Le Seigneur passe par là. Le Seigneur a pitié de lui. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Sur le champ, cet homme retrouve la santé. Cet homme se met debout, oh alléluia. Cet homme prend son lit. Le lit qu'il portait, désormais celui qui porte le lit. Oh alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand les Juifs le voient, ils le connaissaient parce que le pauvre, on le déposait là-bas dans le but de recevoir la guérison, mais jamais il ne recevait la guérison. Les Juifs le voient bien, non, 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 non. Il ne t'est pas permis de porter le lit. Hé, monsieur, tu oublies que nous sommes le... Ah. Vous voyez comment ces gens respectaient le sabbat. Et c'est dans ce contexte-là que d'autres juifs, les premiers disciples du Seigneur, eux décident que désormais le jour du Seigneur sera non pas le septième, mais plutôt le premier jour. Alléluia. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que ces disciples prennent la décision? Qu'est-ce qu'il y a eu, mes amis? Il fallait donc un événement extraordinaire. Il fallait un séisme spirituel pour que le centre de gravité soit déplacé du samedi au... Et nous sommes là le dimanche, le premier jour, alléluia, gloire à Dieu. C'était donc un événement important et tous connaissaient la valeur du Shabbat. Mais par la résurrection, plus rien. Christ a tout accompli. L'Ancien Testament, tout. Alors désormais, c'est en ce jour-là que nous allons nous réunir. Alléluia. C'est en ce jour-là que nous allons le louer. Nous allons l'adorer. Nous allons chanter des cantiques. Et depuis, le premier jour a été consacré au Seigneur. Les grands événements qui a provoqué ce déplacement du centre de gravité n'est autre que la résurrection. Il est vraiment ressuscité. Vous voyez, nous sommes encore là, hein? Pas question de... seulement en réfléchissant. Troisième fait. 1 Corinthiens 15, verset 6, nous l'avons lu. Paul affirme que le Seigneur Jésus a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart, ajoute-t-il, sont encore vivants. C'est-à-dire, lorsque l'apôtre écrit, nous sommes vers l'an 55 de notre ère, c'est-à-dire 55 après Jésus. Hein. Quand il écrit ça, eh bien, il y avait des gens qui avaient vu le Seigneur et qui étaient encore en vie, dont la plupart sont encore en vie. Oui, Paul écrit cela. Il affirme. Pour lui, c'est clair. Il affirme que plus de 500 frères ont vu le Seigneur, dont la plupart sont encore vivants, dit-il. Vous pouvez enlever maintenant le... Paul est affirmatif. Et Paul devait donc connaître ces bien-aimés-là. Non seulement lui-même avait vu le Seigneur ressuscité sur le chemin de Damas, il avait entendu, le Seigneur s'était révélé à lui, mais il affirme ici que d'autres aussi l'ont vu en dehors du cercle apostolique, en dehors du cercle des apôtres. Vous voyez, d'autres l'ont vu, il affirme. Plusieurs, plus de 500 frères ont vu le Seigneur. Et il ajoute, c'est un détail important, dont la plupart sont encore en vie. Voyez-vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour Paul, les choses étaient claires. Quiconque avait des doutes quant à la résurrection du Christ, quiconque avait des doutes du fait que Jésus était ressuscité, que l'évangile que les chrétiens annonçaient, eh bien, est un évangile qui se basait sur la mort expiatoire, mais aussi sur la résurrection du Christ, quiconque aurait pu avoir des doutes, eh bien, n'avait qu'à aller trouver Paul en disant, oui, mais... vous avez affirmé que plus de 500 frères ont vu le Seigneur, dont certains sont en vie, alors moi j'aimerais que vous me le présentiez. Oui ou non? Ben oui, ils ne pouvaient pas prendre ces risques. Vous ne pouvez pas écrire aujourd'hui que tel est ressuscité, qu'il a été vu par les gens de la borne. Et certains de la banque sont encore vivants. Mais un incrédule, il dit, ok, très bien. Il viendrait ici, il dit, mais j'ai appris qu'il y a des gens de la borne qui auraient vu telle personne ressusciter. Est-ce que je peux le voir? Donc Paul était tout à fait ouvert. Mais personne n'a eu à réagir. On n'a pas de documents de gens qui ont réécrit pour contredire Paul, pour réfuter les affirmations de Paul. Voyez? Et donc, ça montre que Christ est réellement ressuscité. Et les gens de cette époque-là pouvaient trouver les témoins en disant, ok, les apôtres, oui, on peut dire qu'ils sont peut-être fanatiques parce qu'ils ont eu à manger avec lui. Paul, oh, on le connaît, lui. Hein? Donc, on le connaît, ça doit être un intégriste. Mais vous, l'avez-vous vraiment vu? Ils auraient dit, oui, je n'ai rien à voir avec Paul ni avec les apôtres. Mais Jésus, je l'ai vu. Alléluia. Mes amis, Jésus est réellement ressuscité. Si tu avais encore de doutes, eh bien voilà quelques faits. Quelques faits. Et le dernier fait, c'est le changement radical. C'est la transformation. C'est la métamorphose qui s'opère dans la vie de tous ceux qui rencontrent le ressuscité. Nous sommes là parce qu'un jour nous l'avons rencontré. Nous sommes là parce qu'un jour, mes amis, Christ est passé par là. Je suis un témoin vivant de la puissance de résurrection du Christ. Et beaucoup d'entre vous, même ceux qui nous suivent à la télé, peuvent assister, peuvent attester que Jésus est vraiment ressuscité. C'est lui-même qui fait ses preuves. Nous, nous disons qu'il est ressuscité. Nous l'avons expérimenté et nous donnons l'occasion aux gens de le rencontrer. Et tous les incrédules qui ont eu à le rencontrer, tous sont finis par devenir ses disciples. Alléluia. Prenez le cas de Paul. Pour lui, les chrétiens, c'était des gens qui déliraient. Il a tout fait pour les persécuter, pour dévaster l'Église. Mais quand le Seigneur se révèle à lui, Paul finira par devenir un farouche défenseur de la foi chrétienne, foi qui repose à la fois sur la mort expiatoire du Christ, mais aussi sur sa résurrection d'entre les morts. Alléluia. Tous ceux qui rencontrent Jésus peuvent attester qu'il est réellement vivant. Leur vie change. Leur vie est transformée. Leur vie est transfigurée. Selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alléluia. Tout celui qui est en Christ, tout celle qui rencontre Jésus, il y a un changement qui s'opère parce que Jésus est vivant. Parce que la Bible atteste qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Jésus est vivant et nous sommes heureux ce matin de célébrer sa victoire, de célébrer sa résurrection. N'ayez aucun doute, soyez en paix. Votre Seigneur est ressuscité. Votre Dieu est vivant. Votre Dieu n'a pas changé. La plus grande promesse qu'il a faite, c'était celle de mourir et de ressusciter, n'est-ce pas? Puisqu'il a accompli cela, alors soyez-en sûrs, toutes les autres promesses, il les accomplira. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin de temps, il est avec nous. Quiconque croira en moi aura la vie éternelle, eh bien, quiconque croit en lui a la vie éternelle. Par sa meurtrissure, nous sommes guéris. Eh bien, la guérison est possible. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je vous demande d'incliner votre tête dans la prière. Christ est ressuscité. C'est une très très bonne chose. Et sa résurrection est victoire pour tous ceux qui l'ont reçu, pour tous ceux qui l'ont rencontré. Peut-être que vous êtes là ce matin, vous n'avez jamais eu l'occasion de rencontrer le Seigneur et d'expérimenter la nouvelle vie en lui, d'expérimenter sa puissance de résurrection. Ce matin, le Seigneur vous donne l'occasion de se tourner vers lui, de l'ouvrir votre cœur et de le recevoir comme Sauveur et Seigneur. Alors, si vous voulez le faire, je vous demande simplement de lever votre main et nous allons vous aider à recevoir Jésus. Alors, sa résurrection, sa puissante résurrection sera une réalité pour toi. Tu ne te contenteras pas simplement de dire « Jésus est ressuscité », mais ça sera une expérience vécue. Oh, alléluia. Peut-être que vous hésitez, eh bien, je vous demanderai, même là où vous êtes, de faire cette prière que je vais faire maintenant, en disant « Seigneur, oui, tu es ressuscité d'entre les morts. Je voudrais expérimenter ta puissante résurrection dans ma vie. Ma vie est une vie marquée par la rébellion ouverte vis-à-vis de toi. Ma vie est une vie d'immoralité, une vie de corruption, une vie de méchanceté, une vie d'esclavage. Et par rapport aux désirs, aux appétits charnels, une vie d'esclavage par rapport au monde. Mais ce matin, je voudrais expérimenter ta vie de résurrection, qui est une vie de délivrance, de libération, de véritable liberté. Alors, si tel est ton cas, eh bien, répète cette prière après moi, et ensuite, à la fin, même de manière discrète, tu peux t'adresser au service d'accueil et ils te dirigeront vers les responsables, les conseillers ou ceux du département d'évangélisation. Seigneur Jésus, tu m'as parlé ce matin. Je réalise que ta résurrection n'est pas quelque chose d'inventé par les hommes, mais plutôt un fait attesté dans l'histoire. Aujourd'hui, Seigneur, je me tourne vers toi. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés. En ce dimanche de Pâques, j'ouvre mon cœur à toi, Seigneur. Viens dans ma vie, que je ne sois plus seul. Viens, Seigneur, et change ma vie. Viens en moi et transforme-moi. Que je devienne une nouvelle créature en toi. Je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Merci, Jésus, de pardonner ma vie, de jeter dans la mer de l'oubli tous mes péchés, d'enlever de mon cœur toute impureté, toute souillure morale, quelle qu'elle soit. Merci, Seigneur. Seigneur, je voudrais te dire merci pour tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui ont réalisé l'importance, Seigneur, de la résurrection et en même temps ont pris conscience qu'ils ne t'ont jamais, Seigneur, rencontré pour expérimenter ta puissance de résurrection. Aujourd'hui, ils t'ont ouvert leur cœur. Merci d'avoir répondu favorablement à leur cri, car c'est toi qui nous dis dans ta parole, « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. » Eh bien, ils ont entendu ta voix. Ils ont ouvert leur cœur et ils t'ont reçu comme sauveur. Merci, Seigneur, de les avoir accueillis dans ton royaume et merci de les aider à grandir avec toi. Merci, Seigneur. Amen.